France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage tous les matins jusqu'à 9h30. Retour sur deux événements qui font l'actualité sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons Myriam Ankawa, présentatrice de la tranche 18-20, les vendredis, samedis, dimanches sur France Info TV. Bonjour Myriam.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
Et Sylvain Courage, directeur adjoint de la rédaction. Je vais y arriver.
Bonjour à
Sylvain.
Tous.
On commence, Renaud, avec notre premier débat. Sébastien Lecornu, un Premier ministre de rupture.
C'est en tout cas ce qu'a annoncé le nouveau Premier ministre, hein, le troisième depuis la dissolution, le cinquième depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, lors de la passation de pouvoir hier à Matignon avec son prédécesseur, donc François Bayrou. Rupture, c'est le mot utilisé par Sébastien Lecornu lors d'une allocution particulièrement brève, hein, 3 minutes, la plus courte allocution de tous des 28 Premiers ministres qui sont succédés à Matignon. Depuis les débuts de la Ve République.
Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage, le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens. Alors pour cela, il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures.
Des ruptures sur la forme, mais aussi sur le fond, dit Sébastien Lecornu. Pas simple hein, de rompre sur le fond lorsqu'on est ministre depuis déjà 8 ans, lorsqu'on est un fidèle d'Emmanuel Macron, lorsque d'ailleurs beaucoup disent que c'est pour ça, à cause de cette fidélité qu'Emmanuel Macron a donc choisi en quelque sorte de nommer son ombre à Matignon. Certains ne croient pas vraiment, en tout cas exhortent plutôt Sébastien Lecornu à s'affranchir. C'était le cas il y a quelques minutes sur ce plateau de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin.
Quand on est nommé Premier ministre, on peut estimer, quand on fait de la politique politicienne, qu'on a des devoirs vis-à-vis du président de la République. Mais il a d'abord un devoir vis-à-vis des Français. Et là, il est temps de s'émanciper. On ne va pas jouer éternellement les petits garçons qui amusent le président, un verre de whisky à la main, en racontant des histoires. Il ne doit pas être le gentil toutou de Monsieur le Président.
Alors, Sébastien Lecornu, quand il parle de rupture, est-ce que c'est du théâtre, Myriam Ankawa, ou on peut y croire ?
Non, c'est pas du théâtre.
Qui parle de rupture.
Non. Ce mot-là, il avait forcément été calibré avec l'Élysée. C'est vraiment le dernier Premier ministre. C'est le Premier ministre de la dernière chance. Il rentre en négociation à 20% d'opinion favorable. C'est très, très, très bas. Même François Bayrou, quand il était nommé après Michel Barnier, était plus haut. Donc là, tout le monde a très bien compris que la mission était extrêmement difficile, voire impossible. Et donc rupture, oui, il y aura des ruptures sur le fond. La question, c'est combien de ruptures ? Il y aura forcément une négociation sur la fiscalité des hauts revenus, pas forcément la taxe Zuckman dans son dispositif existant de l'économiste et du contre-budget du Parti Socialiste, mais il y aura un geste là-dessus. Il y aura aussi sans doute des choses sur l'année blanche, sur la question des deux jours fériés, vous pouvez les enterrer. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'on est dans la surenchère verbale. Il y a vraiment... une nécessité de lâcher. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les socialistes, ils entrent en négociation extrêmement haut, ils bombent le torse. Vous avez un négociateur du budget, Philippe Brun, qui connaît très bien Sébastien Lecornu, c'est député socialiste de l'heure, qui a écrit ce contre-budget, qui vous dit « oulalalala ». Pas question de rentrer finalement dans cette négociation parce que au final on va perdre du temps. C'est un modéré. Donc vous avez aujourd'hui des socialistes qui veulent du très très lourd. La question, ça va être comment réussir à trouver la voie de passage sans perdre les Républicains. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a très bien compris que oui, il va falloir des ruptures. La question, c'est jusqu'où la rupture ?
Sylvain Courage, vous y croyez à la rupture ?
C'est un mot très utilisé et un peu usé en politique. Je pense quand même que c'était un double message. C'était un message à l'homme qui était juste à côté de lui, François Bayrou, pour dire « je vais quand même pas faire exactement comme vous bon, », parce qu'on a vu que la méthode...
Oui, il a même parlé de créativité, voilà, donc ça, de sérieux.
C'était, c'était juste, c'était dosé, mais c'était quand même une petite...
une bonne pique.
Voilà, une petite pique à l'encontre de son prédécesseur. Et puis c'est évidemment un mot qui est adressé à la gauche, mais qui est très vague. Comme vient de le rappeler Myriam, les négociations n'ont pas encore commencé. Mais il indique qu'il est prêt à quelques concessions.
Ça veut dire que, parce que depuis le début, ce qui coince, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'on remette en cause sa politique pro-business. La rupture, peut-être que ça signifie qu'il va falloir qu'on se fasse mal et qu'on accepte un geste pour les plus riches. On n'a pas le choix.
Bon, là, on voit bien que ça revient. C'était déjà un peu inscrit dans le projet de loi de finances défendu par François Bayrou. Probablement, c'est sur ce terrain-là qu'un signal va être lancé. Mais il y a aussi la question des retraites, puisque les socialistes ont aussi rouvert ce dossier, alors là, ô combien douloureux, de la réforme des retraites. Et là, apparemment, Sébastien Lecornu a l'intention de relancer le conclave, c'est-à-dire d'essayer de faire aboutir ce que François Bayrou avait ouvert. Donc, il y a de la continuité dans la rupture.
Non, le problème de Sébastien Lecornu, il a un nom, hein, c'est Emmanuel Macron, très clairement. Myriam Ankawa évoquait tout à l'heure, à juste titre, le fait qu'il était seulement à 20% d'opinion favorable, ce qui est un record extrêmement bas. Mais en fait, il n'y a pas d'impopularité de Sébastien Lecornu. Les Français n'en veulent pas à Sébastien Lecornu, ils ne le connaissent pas, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une autre question. Il est ministre depuis 8 ans. Je pense que l'écrasante majorité des Français ont découvert hier le nom de Sébastien Lecornu et ont appris qu'il était au gouvernement depuis 2017. Donc, cette impopularité qu'on mesure dans ces sondages, ce n'est pas contre Sébastien Lecornu, c'est contre Emmanuel Macron. Et le problème auquel il se heurte, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron continue de dire et de répéter qu'il n'est pas question de remettre en cause la fiscalité, sa politique fiscale, sa politique de l'offre, qu'il n'est pas question de conclure des compromis qui abîmeraient le pays, qu'il n'est pas question de toucher à la réforme des retraites qui est bonne pour le pays. Donc Emmanuel Macron lui considère que la droite et la gauche ont de toute façon un intérêt vital finalement à s'entendre avec le bloc central, parce que sinon ils disparaîtront. C'est une question de survie pour eux. Donc c'est toujours ce fameux appel à la responsabilité du chef de l'État le lance depuis déjà un moment. Mais sur le fond, en tout cas, Emmanuel Macron n'a donné aucune indication susceptible de donner corps à cette rupture. Donc le problème, c'est de savoir si Sébastien Lecornu va pouvoir le convaincre ou s'affranchir d'Emmanuel Macron pour justement donner tous ces gestes que vous évoquiez à l'opposition. Maintenant, juste un dernier rappel, c'est que il y a un autre ex-chouchou du président de la République et héritier potentiel qui avait été nommé à Matignon. Il sait ce qu'il en coûte de s'affranchir du président de la République, hein, c'est Gabriel Attal. Ça a été la dissolution et la porte au bout de 6 mois.
C'est pour ça qu'on va voir la méthode Lecornu, la rupture au risque de perdre les Républicains, Sylvain Courage.
Oui, bien
aussi.
Sûr.
Il faudra mesurer, jauger.
La difficulté, c'est d'arriver à obtenir la neutralité des socialistes sur le budget sans perdre le soutien de LR. Alors lui, il vient de LR, hein, c'est son affiliation première. Donc il a quand même un capital de ce côté-là. On sait qu'il a des attaches. Et puis maintenant, il faut aller en direction des socialistes. Alors il cajole Olivier Faure, apparemment. Il passe des coups de fil. Mais pour l'instant, rien n'a démarré. Et c'est vrai que les socialistes qui ont déjà fait l'effort il y a un an, cette fois, espèrent en retirer plus. Et probablement, ils peuvent obtenir plus.
Emmanuel Macron, disait Dominique de Villepin tout à l'heure, n'a pas tiré les leçons des législatives. Il n'a pas avancé, il reproduit les mêmes erreurs en renommant Premier ministre du Bloc central. Myriam Ankawa, est-ce que cette fois, vous pensez qu'Emmanuel Macron est prêt à se remettre en cause? Ça va continuer comme avant.
À l'Élysée, on pense que de toute façon, la dissolution profiterait au pôle de radicalité dans le pays et au Rassemblement national. Le président de la République parie sur le fait que les socialistes ne veulent pas de la dissolution. C'est pas si sûr, en fait.
C'est pas ce qu'ils disent, en tout cas. Olivier Faure, hier, disait,
voilà,
pas peur.
Quand on regarde les sondages, les intentions de vote, d'abord, il y a un vent de dégagisme dans le pays. C'est la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Mais quand on regarde les sondages, les Français, pour 60% d'entre eux, veulent à la fois la dissolution et la démission du président de la République. Donc, il faut regarder ces chiffres en face, si j'ose dire. Et le pays, quand Dominique de Villepin dit maintenant les gestes vis-à-vis des Français...
Même Dominique de Villepin est dégagiste.
C'est vrai. Bon, donc ça, il ne peut pas l'ignorer. Et les socialistes se disent, ils commencent... Alors, je pense que c'est un argument de négociation. Ils ne veulent pas vraiment la dissolution. Mais en tout cas, ils disent, regardons les sondages... Avec les écologistes et les communistes, on est deuxième force politique. On arrive à devancer les insoumis. Le rêve des socialistes, c'est au fond de se retrouver dans des duels, dans 70% des circonscriptions face au RN et de finir par s'imposer comme la gauche la plus forte avant les municipales et présidentielles. Bon, c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué parce qu'effectivement, il y a ce vent de dégagisme. On l'a vu quand même un peu hier. On va en parler avec le mouvement Bloc Contre. Donc, le pari est très risqué. Moi, je ne suis pas certaine qu'il fallait absolument un socialiste ou un ex-socialiste à Matignon qui connaisse le logiciel du PS parce qu'il ne faut pas perdre la droite. Le Cornu, c'est, voilà, c'est quelqu'un, c'est une tombe. C'est quelqu'un qui sait négocier. Il les connaît tous. Il connaît aussi Marine Le Pen. Donc, il va tenter cette voie de passage. Il faudra sauver sans doute la politique de l'offre, mais c'est les entreprises qui vont compter pour le président de la République. Plus trop les ultra-riches. Donc, je pense qu'il y a une dernière chance. Après, on va vers l'incertitude.
Avec l'Assemblée telle qu'elle est, un Premier ministre issu du Bloc central, c'est logique, arithmétiquement. Voilà. Arithmétiquement et politiquement, avec cette Assemblée. C'est là où se trompe Dominique de Villepin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ensemble sur lequel est supposé s'appuyer ce Premier ministre qui est de l'ordre de 210 députés avec LR. On a vu que ça s'était effrité avec Bayrou. Si vous nommez un socialiste comme Olivier Faure ou un autre, par exemple, c'était 121 députés, puisque les Insoumis ont déjà dit que non seulement ils ne soutiendraient pas, mais ils étaient même prêts à censurer un Premier ministre socialiste. Donc vous ajoutez socialiste, écologiste, communiste, vous arrivez à 121. Donc il n'y a pas d'autre majorité relative, toute relative, supérieure à celle-là. Le problème, ce n'est pas que ce Premier ministre soit issu du Bloc central. Le Bloc central étant, comme son nom l'indique, central. Évidemment, si vous voulez rassembler à droite et à gauche, vous êtes obligé de piocher plutôt quelqu'un au centre. Mais c'est la feuille de route, encore une fois, c'est la mission, c'est-à-dire sur le fond. Est-ce que ce Premier ministre a mission et liberté de revenir sur un certain nombre de réformes qui sont rejetées, de remettre en chantier la réforme des retraites, de changer la politique fiscale, d'aller vers une taxation des plus hauts revenus, d'enterrer évidemment la suppression des deux jours fériés annoncée par François Bayrou. Donc le problème, c'est un problème de fond. Et puis un tout dernier point, c'est que ce problème ne peut pas être résolu simplement par un changement de méthode, par une méthode plus sérieuse, plus professionnelle, c'est-à-dire rencontrer, discuter avec tout le monde en permanence. Parce que souvenez-vous, d'abord, Michel Barnier et François Bayrou, ils ont commencé de la même façon. Ils l'ont peut-être pas fait très longtemps, certes, mais ils ont commencé par appeler tout le monde, rencontrer tout le monde, etc. Mm-hmm. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait, surtout depuis 2022, depuis qu'il a été réélu, faute de majorité absolue? C'est Emmanuel Macron qui passe son temps à inventer des instances dont on a parfois déjà oublié le nom, hein, les fameuses rencontres dites en format Saint-Denis, ça c'était avec tous les chefs de parti, donc toutes les oppositions, le Conseil national de la refondation, vous vous en souvenez, hein, là aussi c'était il fallait mettre tout le monde autour de la table, tout pas seulement les politiques d'ailleurs, pour discuter avec tout le monde, etc. Et tout, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être un pro de la discussion et empiler les instances, si sur le fond vous n'avez pas de grain à moudre, hein, comme disait un ancien leader syndicaliste, à offrir à vos opposants, eh bien évidemment, ça n'avancera pas.
Un tout petit mot, Sylvain Courage. Tout à l'heure, Dominique de Villepin, sur France Info, disait « François Bayrou a voulu viser trop haut, Michel Barnier aussi, 44 milliards, c'est absurde, alors que l'Union européenne nous demande 15 milliards d'économies. » Peut-être qu'il faut aussi faire un peu plus preuve d'humilité, revoir à la baisse les objectifs. Il avait l'air de dire que c'était pas difficile,
c'est
que
si on diminuait la somme, ça irait. C'est probablement la première concession qui va être faite, d'abaisser le niveau de l'effort, qui a en plus a provoqué une réaction sociale. On va le voir probablement le 18 septembre avec les syndicats qui vont rentrer dans la protestation. Donc effectivement, la première marge, c'est celle-là, afficher un objectif un peu plus modeste et faire comprendre à Bruxelles que compte tenu de l'état du pays, on ne peut pas faire plus.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés continuent avec Myriam Ankawa aux manettes du 18-20, vendredi, samedi, dimanche sur France Info TV. Sylvain Courage, directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs. On passe à notre deuxième débat, Renaud Dely. Bloquons tout, stop ou encore?
Il y a donc le nombre de participants, d'une part, pour mesurer l'importance de ce mouvement, entre 175 000 selon le ministère de l'Intérieur et 250 000 selon la CGT, soit un peu plus que ce qu'envisageaient les renseignements généraux dans une note le 1er septembre. Les renseignements généraux n'évoquaient qu'à 100 000 participants. Il y a le nombre d'actions, 812 actions recensées, 550 rassemblements, 262 blocages, mais il y avait évidemment l'objectif qui était assez élevé, bloquons tout. Ça, le pays n'a pas été bloqué, loin de là. Et puis il y a eu aussi des violences, des dégradations, des saccages et des affrontements avec les forces de l'ordre. Alors comment interpréter cette journée? En tout cas, du côté du ministre de l'Intérieur qui avait déployé des effectifs massifs, 80 000 personnels de la police qui avaient été réquisitionnés, enfin qui étaient en charge de maintenir l'ordre, Bruno Retailleau justement a lui dressé hier un bilan globalement positif de l'action des forces de l'ordre.
La mise en échec de celles et ceux qui voulaient bloquer le pays. nous avons précisément mis en échec cette stratégie et les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. Il y a eu de très très nombreuses tentatives, donc on est très mobilisé, on reste extrêmement prudente et nous verrons dans les heures à venir les consignes qui auront été données pour envisager d'éventuelles poursuites de ce mouvement.
Alors, la France n'a pas été bloquée, mais il y a eu une mobilisation significative. On le voit d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même est prudent quant à la suite éventuelle de ce mouvement. Peut-il s'amplifier, durer, s'enraciner, ou s'agissait-il d'un feu de paille et finalement d'une seule journée qui ne donnera pas lieu à se poursuivre.
Est-ce qu'on peut parler d'échec, Sylvain Courage ?
On peut parler d'une mobilisation assez faible. 200 000 manifestants, si on rapporte ça au corps électoral français, il y a 49 millions de Français en âge de voter, ça fait 0,4%. Donc c'est quand même assez faible. On peut aussi souligner la mobilisation des forces de l'ordre, parce que 80 000 policiers, ça fait presque un policier pour deux protestataires. Donc on comprend
80 000 policiers, selon la police et selon les syndicats.
Voilà, oui, voilà. Là, tout le monde était d'accord sur le chiffre. Et c'est ça aussi qui est important. Enfin, je veux dire, qui explique la journée. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives, donc c'est pas nul. Il y a eu une mobilisation. Mais en face, le dispositif était quand même assez redoutable. Et du coup, les dispersions sont intervenues rapidement. Bon, il y a eu évidemment des échauffourées et quelques dégradations. Mais globalement, ça a été d'abord très tenu par la police, ça, je crois qu'on peut le dire. Et parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour déborder la police. Donc, est-ce qu'il y aura à l'avenir plus de monde pour déborder la police ? Rendez-vous le 18 septembre, où là, les syndicats, l'intersyndical, c'est-à-dire vraiment un front uni des syndicats, a appelé à la grève et à la manifestation. Donc là, il y aura des cortèges plus importants. On verra là vraiment la photographie de l'état d'exaspération du peuple de France. Pour l'instant, c'est pas du tout la grève générale qu'avait décrété Jean-Luc Mélenchon, qui bien sûr a vu des signes positifs et nous explique que la révolution citoyenne est en marche, mais ça fait tellement longtemps qu'il l'annonce qu'on peut peut-être réserver notre jugement.
Qu'est-ce que cela dit de la suite, Myriam Ankawa ? Il est trop tôt pour savoir, on peut déjà se dire, bon, ça va pas être les gilets jaunes, ça va pas être la même ampleur, ou on n'en sait rien ?
Alors, c'est pas du tout comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quelque chose d'assez homogène, en fait, dans les revendications, même si c'était pas un mouvement structuré.
Oui, au début, c'était quand même assez disparate.
Oui, mais ça part quand même de la taxe sur le carburant, la fameuse taxe carbone, et puis ça dérive sur une question démocratique avec le fameux référendum d'initiative citoyenne. Et il y a cette explosion du problème du pouvoir d'achat de gens qui sont collés au SMIC. Et ça raconte quand même un creuset français. Et on le retrouve aujourd'hui, on est sur cette préoccupation principale des Français, le pouvoir d'achat, le travail ne paie pas assez dans notre pays. Et je crois que c'est le défi principal qui va être sur la table du prochain Premier ministre et du prochain Président de la République. Quand on se compare, c'est catastrophique.
Et ce mouvement est né donc, aussi du budget de François Bayrou.
Absolument.
Les 44 milliards.
Donc oui, mais c'est un rassemblement de colère. Moi, j'ai trouvé aussi particulier du fait qu'on pouvait dire, oui, les gens sont en colère, ils ont différentes colères, il y avait beaucoup de lycéens, il y avait des étudiants, il y avait des sympathisants insoumis, il y avait aussi une réminiscence des gilets jaunes, le pouvoir d'achat, ça reste un problème, donc oui, il y avait ça. D'ailleurs, 200 000, c'est vrai, c'est pas rien, c'est plus que le 1er mai. Il y aura sans doute encore des mobilisations, et oui, c'est vrai, la mobilisation des forces de l'ordre a permis de contenir ce mouvement. Ce mouvement, c'est pas rien, mais c'est pas un mouvement. Pour moi, c'est plutôt, l'heure actuelle, des mouvements. Le 18, c'est beaucoup plus clair, et dans les revendications, et dans la structuration.
C'est l'intersyndicale
qui
appelle à manifester.
Là, vous avez le monde du travail, et c'est la question du pouvoir d'achat qui va se poser, qui sera dans la rue, et à mon avis, largement au-delà des 200 000.
C'est à la fois plus clair et plus simple pour le gouvernement. D'ailleurs, le 18 est une manifestation plus traditionnelle, avec des syndicats, plus clair, plus simple. Ça dépend évidemment d'abord de l'affluence, et ensuite de la réponse qui sera celle du gouvernement. Ce mouvement Bloquons Tout, qui n'est pas né d'ailleurs du budget de François Bayrou, qui a été attisé.
Non, mais c'est ce que je disais, ça a attisé.
Chronologiquement, c'est vrai qu'en fait, c'est lancé, comme on le sait, sur Telegram et sur d'autres réseaux sociaux.
Il y avait Nicolas Tipet, il y avait différents mouvements.
En amont, d'ailleurs aussi avec un certain nombre d'influences étrangères qui ont participé à ça aussi, d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a été attisé par les annonces de François Bayrou. Je pense que la sociologie n'est pas la même que celle des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était des mobilisations le samedi, le week-end, c'est-à-dire des gens qui travaillent en semaine avec effectivement des petits salaires. Il y avait au cœur ce problème du pouvoir d'achat, d'où d'ailleurs le fait que ça s'enflamme sur le carburant. Là, c'était une mobilisation en semaine, c'était plutôt plus jeune, il y avait sûrement une présence plus importante des salariés des services publics, de la fonction publique. C'est pas la même sociologie. Et puis, il y a y avait une présence beaucoup plus importante des militants insoumis, très clairement, assumés d'ailleurs et revendiqués encore par Jean-Luc Mélenchon hier sur son blog. Donc c'est à la fois...
C'est important cette présence des insoumis dans le mouvement.
Ah bah oui, oui, très, très, très clairement, oui, bien sûr. Et hier, c'était manifeste. Donc c'est à la fois... Ça n'a pas l'ampleur du tout des Gilets jaunes à ce stade, et c'est pas un triomphe hier, loin de là, hein, c'est pas un succès cette mobilisation. Et en même temps, je pense que c'est encore plus compliqué pour le gouvernement d'y répondre au vu des revendications disparates, extrêmement floues, etc., et de l'organisation encore difficile à percevoir, que l'étaient les Gilets jaunes. Donc si jamais, si ça prend de l'ampleur et si ça dure, je pense que ça sera vraiment extrêmement lourd, un défi très lourd pour le gouvernement, mais il n'est pas du tout dit que ça dure et que ça prenne de l'ampleur.
L'un des premiers défis de Sébastien Lecornu. On en reparlera. Merci beaucoup, les informés. Myriam Ankawa, présentatrice du 18-20 sur France Info TV les vendredis, samedis, dimanches. Et Sylvain Courage, directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs. Merci Renaud. On se retrouve lundi.
À lundi, Agathe.
Et voilà. Et vous retrouvez les informés ce soir aussi à 20h avec Victor Matet.